quand on s'est battu. Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info.
Lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça.
Des critiques constructives.
Parce que ça, c'est honteux, ça. C'est la merde.
De l'amour.
Enfin, je vais tout de même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami.
De l'innommable.
C'est pas un endroit pour les enfants.
Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour, bienvenue sur l'émission 26 de L'œil carnivore. Nous sommes le 15 avril et c'est une émission un peu spéciale. Un peu spéciale parce que d'abord il y a des morts vivants partout autour de moi. On est au BIF. BIF, c'est le Bruxelles International Festival of Fantasy, Fantastique, Thriller and Science Fiction Film. Et ouais, je vous la coupe la science couleur.
Avec la fiche derrière toi. Ouais,
allez. Je l'ai lu avec la fiche.
Ouais.
Et donc, en émission spéciale aussi, parce qu'on est en petit comité, ce soir on a autour de la table Luc,
ouais.
Voilà, et Nicolas.
Salut.
Voilà, bah, rapproche-toi Nicolas, on va faire un double duo,
ouais,
voilà, hop, voilà, voilà. Et doublement spécial parce qu'on a un invité de Marc.
De Marc, oh mon dieu,
voilà. Rémi Fréchette. C'est ça, c'est
oui, comme exactement,
ça
oui, oui.
Fantastique. Qui, vous le reconnaîtrez à l'accent, vient d'un endroit très très lointain où il fait froid et où il y a des jaunes.
Il y avait de la neige en fait avant que j'arrive à Bruxelles, donc je suis bien content d'être ici en souliers sans mes bottes.
Ouais, cool, cool, cool. Et donc voilà, bah, on va commencer cette petite émission. Alors, ça va être un peu spécial, hein, on vous prévient, parce qu'on n'a ni de conduite.
Ouais, c'est freestyle aujourd'hui. Hein.
C'est freestyle complet. Mais bon, donc, on va vous parler dans cette émission du film Les Jaunes, qui nous vient du Québec et dont Rémi est le réalisateur. Et on va vous parler aussi, bah, Nicolas va vous parler de...
De Kung Fury, un film qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir fin mai, un film suédois.
Un film suédois. Donc nous avons du Canada et du suédois ce soir. C'est cool. Commençons directement. Hein. On n'a pas de rien pour faire les transitions, alors on y va franco.
Ah, moi j'avais suggéré de le faire à la bouche, mais.
Ouais, les... bon. Tu nous fais un petit jingle, Nico, à la bouche là.
C'était pas quoi. Entre les transitions, c'est.
Ouais, pas mal.
Ouais.
Ok, donc, alors pour la petite histoire, ben on est tous les trois, Nicolas, Luc et moi, on est allés samedi soir au BIF,
ouais.
À la séance de minuit et demi, voir le film Les Jaunes, sur une proposition de ma part d'ailleurs, parce que je me suis dit si je dois voir qu'un seul film au BIF, parce que voilà, mon emploi du temps ne permettait pas trop de voir grand chose, je me suis dit autant voir quelque chose d'improbable que je verrais sans doute.
Pour l'histoire, Damien m'a suggéré, il m'a dit tiens, t'as pas envie d'aller voir un film là avant qu'on fasse l'émission? Je fais ouais, bon, allez, j'ai regardé le programme, il m'a dit c'est un film qui est en fin de journée vers minuit, j'ai été regarder le programme, j'ai vu Les Jaunes, je sais pas où d'ailleurs, j'ai vu une espèce d'accroche disant que c'était. Il fallait imaginer les mignons de Despicable Me.
J'ai jamais eu cette comparaison.
Je ne sais pas d'où ça sort, mais j'étais assez surpris en voyant le film finalement.
C'est vrai que là, c'est pas vraiment ça.
Le menu, c'est vraiment cool parce qu'habituellement, les gens sont un peu bourrés, puis ils sont en fin de journée, donc ils viennent. S'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent vraiment être là.
Voilà, ouais. C'est clair, c'est clair. Et donc, on a vu Les Jaunes. Et on n'est pas déçu du voyage.
On a bien rigolé en tout cas, parce que déjà le film était super sympathique. En plus, l'ambiance au BIF contribue largement aussi.
Pour ceux qui ne connaissent pas l'ambiance du BIF, c'est on n'y va pas pour regarder un film de façon normale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui hurlent à travers tout le film, qui balancent. Alors dès qu'on voit, je sais pas moi, une étoile de nazi, comme dans les Jaunes par exemple, etc.
Non, quand on voit une lune, ouais, exactement. Quand tu vois la lune, c'est les gens qui crient quand on loue.
Voilà, le loup-garou. C'est non, il faut pas aller au fond du bois, non, ne pars pas, tout, voilà. Donc il y a des commentaires pendant tout le film, et ce qui rend aussi effectivement le film encore plus sympathique au final.
Ah ça, faut demander à Rémi, ouais.
Ouais, mais en plus mon film est très très québécois, donc il y a des personnages qui sont assez incompréhensibles pour des gens qui viennent de l'Europe. Donc il n'y avait pas de sous-titres français, donc c'était les sous-titres anglais ou flamands sur lesquels les gens pouvaient se rattacher. En fait, ça contribue un peu au, je pense, au dynamisme du film, que ça soit incompréhensible pour quelques personnages. Là. Il y a des personnages que c'est, ouais, c'est du slang québécois, comme on pourrait dire.
Oui, notamment le couple là. Faudrait que tu nous dises pourquoi, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, cela, sorte de redneck québécois quelque part, ou de, on a un peu l'équivalent en Belgique. Hein,
ouais, les barakis.
Les barakis, ouais, voilà.
Ouais. Ouais, au début, ça partait du vraiment du canevas très classique des films des 80s. Donc notre personnage, le méchant, c'est notre Biff là, de Back to the Future. Donc on avait ce personnage-là, puis on pensait en fait lui mettre deux personnes en dessous de lui, là, les gars qui le suivent tout le temps partout. Puis on s'est dit ça serait tellement drôle d'avoir un couple en fait qui le contrôle mais sans qu'il s'en rende compte là. Donc deux trous de cul, qu'on peut dire, est-ce que je peux dire ça, vous allez me censurer? C'est excellent. Donc ces deux là qui sont vraiment trash puis qui le suivent un peu partout puis qui sont juste ils collent après parce que le mec a un char québécois. Il y a une voiture, donc oui, un char, ça serait québécois. J'ai pas de titre, donc désolé si des fois je tourne de l'autre côté là. Donc voilà, puis on avait ce personnage-là qui le suivait, ouais.
Alors là, on a tout d'un coup de la musique qui nous arrive, je sais pas d'où ça vient exactement, mais... Ah oui, d'accord, ouais. Ok.
Tu reconnais pas?
Si, c'est Star Wars. Ouais,
quand même, ouais. Il a un très chouette t-shirt d'ailleurs, vous avez vu, il avait annoncé justement le film quand on était venu.
Ah oui, effectivement. Bon, alors on va essayer de continuer l'émission. Malgré mais
ça fait partie de l'ambiance du Biff en fait.
Voilà, exactement, donc accrochez vos oreilles.
Vous êtes sur place là, présentement.
On va peut-être commencer par présenter voilà. Ton film.
Donc, et les jaunes, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch des jaunes
Donc, ça se passe au nord du Québec, dans une petite ville, ville fictive, en fait, qu'on a inventé toute pièce, une ville qui est entourée d'un mur de pierre en plus. Les gens ne peuvent pas sortir de là. Puis, avec un passé un peu sombre et une caisse qui est livrée au supermarché de la place. Et dans la caisse, il y a un cerveau à tentacules qui rentre dans la tête d'un commis et puis il se transforme en jaune, qui est un peu un genre de zombie, mais qui n'est pas un zombie parce qu'il est un jaune. Et puis ce mec, il vomit d'autres bestioles qui rentrent dans la tête des gens du village et on comprend le principe, c'est le principe de l'épidémie. Puis à côté de ça, en fait, nos personnages principaux, c'est deux jeunes en fait qui travaillent au supermarché, qui vivent une histoire d'amour, l'histoire d'amour non assumée et qui finissent par devoir sauver leur peau et probablement sauver leur ville, peut-être. On verra.
Voilà. Ne spoilons pas à la
exactement.
Fin. Quand même.
Surtout pas.
Quoique, on sera peut-être obligé de le faire, entre guillemets, ou en tout cas de dire qu'il y a une fin ouverte, mais on verra ça après.
Oui.
Alors d'abord, d'après ce que j'ai lu à droite à gauche et ce que tu as dit d'ailleurs après la projection, à la base c'est un projet de web-série, c'est ça?
Exactement, on est allé vers la web-série parce que c'était plus facile de distribuer le projet après. C'est tellement compliqué de sortir un long métrage au Québec, mais je pense un peu partout, sauf aux États-Unis, je crois qu'il y a plus de facilité, là, mais trouver des distributeurs, c'est vraiment la merde. Donc on est allé vers quelque chose de très accessible, quelque chose qu'on peut, on peut faire la promotion nous-mêmes avec les médias sociaux, donc sur Facebook, Twitter. On a utilisé ça pour faire vivre l'aventure du tournage aux gens. Donc on est allé, version web, puis après, on avait le matériel, puis on savait qu'on pouvait faire un long métrage, parce que tout suit dans un sens, c'était une histoire en continu qui a été divisée en épisodes. Puis on a créé le long métrage pour pouvoir faire des festivals et me voilà au Biff. Ça a été très payant au final de pouvoir faire le long métrage parce que voilà, on est ici là.
Eh ben chouette. Et donc il y a eu une campagne style Kickstarter au début.
Ouais, on a eu un peu d'argent, mais le projet a coûté 60 000 $, donc je crois que c'est comme 25 €, un truc comme ça là en équivalent. Donc c'est vraiment, non mais juste pour comprendre, c'est absolument rien ce qu'on avait.
C'est bon, je peux te financer le prochain, alors c'est ça. Je te file 25 €.
Oui, s'il te plaît, ouais, j'aimerais tellement faire la suite. Donc on a fait ça avec les moyens du bord. J'ai pris un prêt à la banque. Les producteurs ont pris un prêt aussi. On a eu des commandites d'équipement, des commandites de nourriture pour pouvoir survivre
des,
en fait
des
à
commandites.
Des commandites des c'est pas l'équivalent. Donc des gens qui nous donnent des qui nous prêtent du matériel, des donations, là, c'est cet équivalent-là. Donc à Québec, il y a un truc qui s'appelle Spirafilm, ils ont plein d'équipements, puis il y a des projets indépendants. Ils nous ont donné 95% de rabais sur l'équipement, donc on avait un bon rabais, mais on a tourné avec la 5D, donc un appareil photo. On a vraiment fait avec les moyens du bord. Pour ceux qui connaissent le mouvement Kino, c'était vraiment dans le style Kino, donc on utilise notre créativité pour faire le projet, pour y arriver. Mais ouais, il n'y avait aucun financement, donc c'était ça le défi. Puis on a quand même des scènes avec des militaires. On avait dans le scénario de base, je l'avais montré au producteur. Puis bon, à un certain moment, il y a des jets qui passent au-dessus de la ville. Puis il fallait que ça arrive, cette scène-là. C'est dans le scénario, mais comment on fait ça? Ben, en prenant des gens motivés qui veulent nous donner du temps, puis de l'énergie. Puis ouais, c'est ça, là. Embarquer les gens dans le trip de faire un film sans budget.
Oui, oui, parce que. Mine de rien, effectivement, avec pas énormément de budget, mais l'image est quand même pas mal léchée. Il y a un bon rendu. Bon, c'est vrai que le 5D, maintenant, beaucoup de gens tournent avec. Et,
ouais, vous avez de la post-prod quand même aussi dedans. Yeah. Vous avez quand même, vous êtes quand même pas mal débrouillé pour avoir quand même un résultat qui est tout à fait... enfin, je veux dire, c'est complètement pro, finalement, le résultat que vous avez fini par avoir.
Oui, ben merci. Puis, tu sais, il y a une anecdote, par exemple, là, je voulais les yeux des jaunes qui soient toutes noires. Hein. Puis on a les
d'ailleurs, les maquillage assez chouette.
Ouais, ouais, bah, c'est très de base en fait. Puis ça nous sauve sur le maquillage zombie qui est super compliqué. Là, nous autres, on avait les jaunes, donc c'était très simple à faire. Mais les yeux noirs, en fait, on voulait des lentilles noires. Puis ça coûte hyper, hyper cher. Donc en post-prod, en fait, à un mois de la sortie de la série, on n'avait toujours pas les... Ouais, il y a beaucoup de musique. Hein.
On va y arriver.
Voilà. On va chanter aussi. Hein.
Donc on avait... je vais essayer d'y arriver. Donc on avait pas les yeux noirs. C'était quelque chose de plus à faire. On avait 120 plans à faire en post-production. Puis on a décidé à un mois du tournage, de la sortie de la série, de demander à des gens d'effets spéciaux de nous aider. Donc chaque personne prenait 5 à 10 plans. Puis ils nous faisaient ça à un mois de la sortie. Donc c'était des challenges, toujours des challenges, jusqu'à la dernière minute. Là.
Ouais, voilà. Bah ça marche parce qu'on...
Ouais, ben merci.
Il y a la bave aussi, la bave noire.
Oui. On voulait trouver l'alternative un peu plus cartoonesque, avoir du sang, tu sais. J'aime beaucoup les trucs gore, en fait, mais on voulait quelque chose d'accessible. Puis l'inspiration, c'était Gremlins pour moi. Moi, c'est les films des années 80, donc on est allé vers quelque chose de plus coloré. Tu sais, Gremlins, il n'y a pas de sang dans Gremlins, il n'y a pas de... C'est le 13 ans et plus, comme on dit, PG-13 aux États-Unis. Donc, on voulait y aller dans quelque chose de très accessible. Moi, c'était mon rêve de gamin, en fait. Hein. Je me disais, est-ce que Rémi, à 9-10 ans, il aimerait ce projet-là? C'est un peu ça. Donc, je l'ai fait avec ça en tête.
D'accord. Et effectivement, on retrouve... tu disais dans certaines interviews que tes inspirations, c'était les films des années 80, Beetlejuice.
Invasion of the Body Snatchers.
Ah oui,
là, c'est... Les versions des années 70.
Ouais, celle-là, elle est flippante, celle-là.
Ouais, exactement, c'est un peu plus sombre, mais c'était quand même le parasite plutôt que le zombie qui est là par l'infection. Donc ça, c'est un peu l'inspiration qu'on est allé chercher. Puis même les body snatchers, ils font comme un... Puis là, les jaunes font... On essayait d'aller chercher comme l'espèce de voix aux jaunes avec ça. The Mist, en fait, la brume de Frank Darabont, parce que le contexte de supermarché, là, où les gens se retrouvent,
oui,
le
ça,
petit
ouais.
microcosme, puis Evil Dead 2, puis Shaun of the Dead, j'ai une liste de références, là. Mais vraiment, l'équipe de base, en fait, les acteurs, pour qu'ils comprennent le ton que je voulais donner au personnage, c'était Gremlins. Regardez ça, vous allez comprendre le penchant entre le réalisme, mais le théâtre aussi, c'est un peu théâtral. Donc,
D'ailleurs, à ce niveau-là, la musique fait beaucoup.
Ouais. Oui.
Alors, comment il s'appelle
Hugo Meyrin, en fait.
Hugo Meyrin,
c'est un ami, en fait, de l'école secondaire. Est-ce que vous avez vu ça ici, l'école secondaire?
Oui.
Donc, à l'école secondaire, on s'est rencontrés, on avait 14 ans, je crois, 15 ans. Puis, on a tout fait nos projets. Au début, Hugo, c'était un de mes acteurs dans mes premiers films, mes premiers courts-métrages. Hugo, c'est vraiment spécialisé en musique. Maintenant, il fait des trames sonores. Il a travaillé sur des films IMAX, il a travaillé sur des trucs. Mais il a vraiment pris sa direction. Mais on fait tout ensemble, tous mes projets. C'est lui qui fait la musique. Puis, les jaunes, ça a commencé avec lui. En fait, on était autour d'une table, on prenait une bière, peut-être d'autres trucs aussi. Puis, on jasait de on veut faire un gros projet, un long métrage. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour pas se faire chier? On voulait pas un film philosophique. On voulait juste avoir du plaisir à tourner. Puis, on a développé le concept. Puis, on était bon, on aimerait se faire un truc de zombie. On aimerait se faire un truc de petite bestie. À la Gremlins, qu'on a mis plein d'idées sur papier, puis au final, les deux, on est sortis de brainstorm en se disant qu'on va faire les jaunes, puis de fil en aiguille, l'équipe c'est a grossi, puis c'est devenu le méga projet. T'sais, au final, il y a eu 250 personnes qui ont travaillé dessus. Donc,
c'est
parti
du énorme,
petit...
oui.
Oui, exactement. Tout le monde bénévole. Donc, c'est à partir du petit projet à deux qui est devenu ce gros truc-là. Il y a des jours sur le plateau, on était 50 sur le plateau, puis plein de gens que je connaissais pas qui venaient me servir un café. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai pas de grosse réputation, là. C'est juste que les gens étaient là parce qu'ils voulaient, puis trouvaient ça cool d'être sur le plateau, puis de voir comment ça se passait. Donc les gens se sont ajoutés au projet, puis ça a fini comme un, tu sais, ça, là, un gros truc quasiment familial. Là. À la fin, c'est devenu la famille des jaunes. Là. On se faisait appeler les jaunes, là, tu sais.
D'accord, c'est chouette. En tout cas, je vous conseille d'aller voir le site de Hugo Méran, parce qu'il a travaillé sur pas mal de choses.
Il fait de la musique jazz aussi, qui est vraiment, oui. Vraiment, c'est vraiment très bon, un peu à la Michel Legrand.
Il fait de l'orchestration aussi, je crois.
Oui, exactement, pour les films IMAX, c'est ce qu'il a fait. Il a travaillé aussi au Québec sur quelques productions, des productions québécoises.
Et notamment sur le jeu vidéo.
Oui, exactement. Fait de l'orchestration pour Kif, oui.
Voilà, donc allez voir son site.
Tu disais, je me souviens à la fin de la projection, tu parlais de la musique et tu disais que tu avais voulu donner un effet justement assez proche de Beetlejuice, notamment comme référence. Et c'est vrai que moi, ça m'y a fait penser en fait, vraiment, quand j'entendais la musique, cette musique qui était là, toujours derrière, un peu vraiment qui collait super bien finalement au côté un peu décalé et en même temps qui filait une chouette ambiance. Et c'est, là, pour le coup, je veux dire, j'ai pas été surpris quand tu l'as dit. J'étais même content d'avoir vraiment partagé la référence. Mais c'est vraiment chouette, ça donnait vraiment bien.
Oui, les premiers soundtracks, les premières trames sonores de Danny Elfman, je crois qu'il est rendu sur le pilote automatique. Mais au début, il y avait une fougue là, dans sa musique. Puis les thèmes aussi qui se rattachent à chaque personnage, c'est un peu la formule. C'est le old school Hollywood, le John Williams, Jerry Goldsmith. Donc chaque thème est associé au personnage. Ça donne même une touche musicale en fait au projet. C'est pas un musical avec des paroles, mais souvent le film va s'arrêter pour laisser la place à la musique et à l'action.
D'ailleurs, à ce propos, le premier contaminé, alors que Paul, le fils de la patronne de l'opéra,
oui, c'est ça.
Moi, j'ai trouvé un petit air de, alors d'un côté de Johnny Depp, Benny and June, etc., et un petit peu de Buster Keaton aussi.
Oh,
il y a
cool.
Un côté très film muet, puisqu'effectivement il parle pas.
Mais cet acteur-là, si en fait, c'est un acteur aussi avec qui je travaille depuis super longtemps, depuis les premières productions que je faisais. Puis je sais que cet homme-là a un jeu physique en fait assez surprenant. C'est très mime, là. Il est excellent dans tout ce qui est physique, dans tout ce qui est juste donner une couleur au personnage sans avoir de dialogue. Même comme référence, je vais avoir un blanc en fait, mais c'est le mec qui joue dans les films de Guillermo del Toro, qui joue l'homme poisson, puis joue le faune dans le labyrinthe de Pan. Donc ce gars-là, il fait toujours en fait des créatures, mais il donne tellement juste une touche physique au personnage sans nécessairement qu'il y ait plein de dialogue dans le jeu.
Parce que personne ne le voit, évidemment. En fait, il ressemble à Elio Di Rupo jeune. Ça ne te parlera pas, mais...
Pas du tout, j'ai aucune idée.
Oh mon Dieu.
Elio Di Rupo.
Oh là là.
C'est la coiffure qui te donne cette
idée. La coiffure en plus...
Et le papillon aussi.
La coiffure en plus, le mec est super motivé. À chaque production, on a comme une espèce de trip que... Il va changer ses cheveux complètement, mais juste pour le film. Donc, à un certain point, il s'était rasé complètement le coco pour un film que j'avais fait. Puis là, ben, il était game. Donc, il était vraiment partant. Il s'est fait la coupe bol. Il s'est fait teindre en noir. Parce qu'il y a les cheveux.
C'est ses vrais cheveux.
Oui, voilà. C'est ses vrais cheveux. C'est pas une perruque. Puis il travaillait tout l'été dans un vignoble. Puis il y avait cette coupe de cheveux-là, donc il portait un chapeau tout l'été pendant qu'on tournait. Donc, il était partant de se donner à fond là, pour avoir le personnage. Là.
En tout cas, ça marche bien, ça c'est sûr. Je ne sais pas si tu as d'autres sujets sur lesquels tu veux venir.
Est-ce que tu as déjà éventuellement des projets pour un truc, éventuellement même par rapport aux web-séries, peut-être pas dans l'immédiat sur un long métrage, j'imagine, mais est-ce que tu as des projets pour la web-série?
Oui, ben, je viens de finir un projet de web-série, en fait, puis les gens, ça m'a peut-être donné la crédibilité pour pouvoir avoir un financement. Donc, il y a comme deux financements web au Québec. Puis j'en ai eu un qui était une bonne bourse en fait, donc c'est la première fois que j'étais payé pour faire de la fiction. Puis c'est un faux documentaire, donc un documentaire. Chaque épisode, c'est à propos d'une créature légendaire du Québec, c'est des vraies légendes. Puis les animateurs de l'émission, c'est tourné un peu comme un show à la Discovery. Puis les animateurs de l'émission se rendent sur place où la légende est née, puis essaient de trouver la créature. Donc, vu que c'est du documentaire, je peux faire apparaître les bestioles. Ça, c'est le plaisir de la chose. Donc, loup-garou, monstre marin, Sasquatch. Les mythes sont très différents. Le loup-garou québécois est très particulier. Donc, chaque créature a vraiment quelque chose à raconter. Puis, on est très influencé par la culture américaine. Donc, je trouvais ça important de rappeler nos légendes québécoises puis de montrer un peu c'était quoi notre bagage mythique, mythologique au Québec.
Chouette. Et ça va s'appeler comment?
Ouais. Ça s'appelle l'étrange province. Ouais. Puis à travers les épisodes aussi, ce qui est très particulier, c'est qu'on a des vraies entrevues avec des vrais spécialistes. Donc, les entrevues ils dirigent la trame narrative. Par exemple, le mec, il dit, le Sasquatch a une odeur assez particulière, il dit ça dans l'entrevue. Puis là, après ça, on est dans l'aventure. Puis là, les gars, ils se prennent dans la forêt, ils font, est-ce que tu sens ce qu'on... ils sont dans la forêt, puis ils sentent l'odeur. Puis là, c'est ça qui les fait trouver le Sasquatch. Donc, les vraies entrevues, puis quand je dis vraiment le spécialiste de Sasquatch, c'est un mec qui y croit à fond. Donc, c'est vraiment spécial de l'avoir en entrevue. Puis, je pouvais poser la question, comment les Sasquatch vont faire des enfants, vont copuler, vont se reproduire. Puis, il y avait une réponse, là. Il sait exactement tout ce qu'il y a à savoir sur les Sasquatch.
Fantastique.
Oui, exactement. Donc, voilà. Puis, peut-être un long métrage par la suite. Là, ça vient de se terminer. Donc, la série sort en juin sur un site au Québec. Je sais pas si ça va être géobloqué, là. On a ces trucs-là qu'on peut pas
voir. Ouais, moyen toujours.
Oui, d'ailleurs, effectivement, les jaunes, on peut le voir sur un des deux sites qui est en référence.
Kebweb.tv, ouais, en fait. Voilà. Celui-là, il n'est pas géobloqué. Mais sinon, je me suis rendu compte, c'est très flatteur, que la série a été piratée. On est en torrent. Et en tant que réalisateur, je vous donne la permission d'aller chercher torrent. Vous avez le droit de me pirater. Si c'est juste pour voir le projet, ça me fait absolument plaisir. Fallait nous télécharger.
Chouette. Au niveau de l'écriture, tu avais dit lors de l'intervention, après la projection, que tu avais prévu ça en trois parties.
Oui, exactement. Puis de base, on voulait faire trois films. Comme on disait, il y a une fin ouverte.
Parce qu'il y a une vraie fin ouverte. Ouais, ça termine un petit peu abruptement.
Oui, puis pour moi, ça m'agace un peu de le présenter en long métrage à cause de ça. Parce que quand on dit saison 1, par exemple, là, on sait qu'il va peut-être avoir une saison 2. Donc, on prévoit une suite. Mais quand on dit les jaunes tout court, ben là, on se dit... OK, mais pourquoi ça finit comme ça? Mais bon, ça me fait grincer des dents un peu à regarder le film comme ça au festival, parce que je sais qu'est-ce qui s'en vient. Moi, je sais qu'il y a une suite à ça. Puis on se disait, on allait faire la pré-apocalypse avec le premier, l'apocalypse avec le deuxième et le post-apocalypse avec le troisième. Donc des volets où tout grossissait, en fait, de film en film. Le deuxième, on passait de la ville fictive à la ville réelle, donc on voulait aller à Montréal, puis que les gens étaient rendus dans la grande ville du Québec où ça s'est propagé, puis les gens, l'épidémie s'est propagée à Montréal, puis la fin ouverte mène un peu à ça, en fait. On va aller à Montréal, on va vous donner un cue, mais il y a peut-être un antidote possible pour les jaunes, peut-être.
Voilà, peut-être.
Donc est-ce qu'on va trouver cet antidote-là dans le deuxième? Donc c'était ce qu'on avait, mais bon, il n'y a pas de financement pour ça. Puis je me suis tué pendant 4 ans à faire ce film-là. Donc est-ce que je veux encore... je pense qu'on en fait un comme ça avec les moyens du bord. Puis on peut pas le faire deux fois parce que
bien vivre.
Je suis en train de mourir.
à ce niveau-là, il y a des web-séries en France qui trouvent d'autres solutions derrière pour continuer, que ce soit la bande dessinée, que ce soit le livre.
Puis j'avais même pensé, en fait, peut-être il y a des gens qui font des suites en cartoon. Il y avait une série aux États-Unis qui s'appelle... Est-ce que je vais trouver...
Oui, ça me dit quelque
chose. C'est The Book of Evil, un truc comme ça. C'était une série... C'est un sitcom, en fait, mais un sitcom de genre. Il y a eu deux saisons, puis on dit la troisième. Ils voulaient faire la troisième saison pour tout clore, en fait, le sujet. Puis c'était Todd and the Book of Evil, je pense que ça s'appelle. Puis la troisième saison, ils sont en train de faire un long métrage animé. Donc ça coûte moins cher, c'est peut-être plus simple de trouver du financement. Donc c'est peut-être
si tu cherches des gens.
Oh. Hey, on verra, hein. peut-être qu'un jour ça va me
ranger. J'ai l'impression qu'ils payent pas des basses. Ouais,
mais ça, je suis habitué à pas payer, ouais. C'est pas pareil.
Mais c'est puis l'autre stress aussi de faire la saison 2, c'est qu'il aurait fallu la faire assez rapidement parce que j'ai une jeune actrice dans le projet qui vieillit déjà et dans l'étrange province, puis je l'ai revue sur le plateau, puis bon, elle a pris 3 ans, puis dans les jaunes, elle avait quoi, 12 ans, puis elle est rendue à 15 ans, donc il y a une différence, là. On peut pas faire, le jour d'après, parce que là, elle se ressemble plus à 100%, là.
D'accord.
J'ai même mon acteur principal qui est devenu papa il y a quelques mois, donc tu sais, tout le monde a vieilli un peu, puis... Mais bon, voilà, il va y avoir d'autres projets, sinon d'autres beaux projets qui s'en viennent.
Et au niveau de l'écriture, elle a un peu la réaction de ce qu'on avait à la sortie de la projection. C'était que le début fonctionnait très bien. Moi, j'ai trouvé qu'au niveau de la mise en scène, etc., ça marchait très bien et que c'était très rythmé, dynamique. Il y avait un peu de Buster Keaton, comme je disais tout à l'heure, et du mime, quelques bonnes idées de réalisation. Mais à un moment, lorsqu'ils descendent en fait dans les souterrains,
ouais, c'est lent un peu.
C'est lent et quelque part, il se passe plus grand chose de nouveau en fait.
Non, c'est ça exactement.
On fait juste rappeler
l'intrigue. Puis en fait, dans la web série, ce qui marche bien aussi, c'est qu'on finit chaque épisode sur un cliffhanger, donc une fin en suspens. Puis ça marche bien parce que ça te garde en haleine. Puis là, il a fallu les couper les fins en suspens parce qu'il fallait faire un long métrage, donc on pouvait pas avoir cette forme-là. Puis ouais, je suis vraiment d'accord. Moi, le projet, en fait, je l'ai terminé. La websérie est sortie il y a 2 ans. On a terminé le long métrage il y a presque 1 an, la version long métrage. Donc, on a tourné, ça fait peut-être 3 ans. Donc, pour moi, le projet est déjà loin. Puis, je regardais le film, puis il y a des bouts qui me font dégraisser des dents. Là.
Ben
des,
ça, c'est normal.
Il y a toute la scène, en fait, où ils sont dans ce que j'appelle le cimetière automobile, donc la casque, vous dites,
ouais,
je pense.
Oui, voilà.
Donc, tout le bout, ils sont là. Ça a été tourné en une journée, cette scène-là, mais s'il y a des choses qui fonctionnent pas, puis je le regarde, puis tu sais, j'aurais besoin de... Mais le film a été tourné en 22 jours, puis on aurait besoin de 35 jours environ de tournage parce qu'il y a plein de scènes d'action, puis juste bien placer ma caméra. Il fallait des fois juste tourner hyper, hyper rapidement. Il fallait que je coupe dans le scénario, mais sur place. Donc, trouver des solutions rapides, puis là, t'arrives au montage, tu fais bon, mais ça marche moins, mais bon, on a ça, il faut faire avec.
En même temps, il y a quelques plans super préparés. Lorsque, par exemple, il passe en voiture dans le... au milieu de la ville qui est contaminée et qu'on voit tous les jaunes qui
sont toute l'équipe technique en fait là, c'est juste pour vous dire là, l'équipe technique, toute l'équipe technique ont un caméo dans le film donc tout le monde y est passé. Moi, je pense que j'apparais 3 fois, je fais 2 jaunes plus un scientifique nazi au début, donc on a tout fait
tout
quelque
ça
chose
ça vient de toi en fait.
Oui, c'est ça exactement. puis en plus les accessoires sur le plateau portent les noms de l'équipe, donc tout le monde a son accessoire. Parce qu'on est dans un supermarché, donc c'est des faux produits, puis personne peut le savoir, mais c'était des inside jokes en le faisant.
On le voit un petit peu sur les boîtes qui rangent au début.
Ouais, exactement, c'était les cannes, c'est les cannes de Hugo Cotto en l'honneur de Hugo Méran. Donc c'était les pieuvres Hugo Cotto.
Oui, c'est des pieuvres, oui, c'est ça.
Ouais, Hugo Cotto. Moi, j'étais la gomme fraîche pour fraîchette. Donc on avait chacun notre produit. On a le script sur le plateau s'appelle Raffi. Puis il y avait l'eau Raffi qui est pareil comme... c'est quoi déjà l'eau... L'eau Fuji, je sais pas trop. Là, y a comme
Fidelity
une...
ou non? Ouais,
en tout cas, on avait imité l'étiquette, puis on avait ça sur le plateau. Donc, personne ne va comprendre, mais pour nous, c'était un peu un salaire là-dedans de pouvoir autant cliquer sur le projet, puis qu'on fasse partie, tout le monde fait partie du projet. Là. Mais oui, mais je suis d'accord sur l'écriture. Bon, ça fait longtemps que je l'ai écrit, puis on le voit avec le temps, mais bon. Au final, je suis content. Bon, le film fonctionne en soi. Puis ce que je peux dire aussi, c'est qu'on avait écrit la série web en fonction des lieux. Donc, chaque épisode était un lieu différent. Puis ça, c'est ce qui amène, je pense, un dynamisme au projet. Puis c'est pour ça qu'il y a des personnages, des fois, qui arrivent puis qui disparaissent pour le reste du film. Mm-hmm. C'est parce que dans la série, ben, ils sont là pour un épisode puis ils disparaissent un peu... ben, c'est une formule pour cela, pour dynamiser puis découper notre plan de travail. Puis, moi, j'en ai parlé un peu déjà dans d'autres entrevues, mais c'est une référence vraiment loin. Mais les bases, en fait, de l'écriture de fiction, si on revient, bon, ça a l'air tellement vanteur de dire ça, mais je ne veux pas, mais si on revient à la mythologie grecque, donc, tu regardes, mettons, l'Odyssée d'Homère, qui est divisée vraiment en sections. Il y a une section, on est dans une grotte avec un cyclope, il y a une section, on est dans la cabane avec la sorcière. Donc, chaque petite bulle, on est avec un personnage différent, avec un monstre différent, puis on se déplace d'aventure en aventure. Donc je pense que c'est la trame d'aventure qu'on a adaptée pour que ça reste dynamique, mais que ça soit aussi un truc d'aventure là.
D'accord. Et pareil sur le petite question en re-regardant un petit peu la websérie au début, le langage du professeur allemand,
oui,
qui est un espèce de mélange. Alors je me suis dit, est-ce que c'est pour éviter parce qu'il parlait pas allemand? Ou est-ce que c'est pour que ça soit compréhensible par tout le monde? Est-ce que parce qu'il parle plusieurs langues, il parle allemand, anglais et français, je crois.
C'était une proposition de l'acteur en fait. Au début, il était censé parler seulement allemand. Puis il m'a dit, ça serait cool qu'il soit polyglotte. Puis c'est un français en fait. qui vit entre le Québec, entre Londres, entre la France. Il se promène, cet acteur-là. Puis il m'a proposé ça. Puis il parle allemand, en fait. Il doit avoir un accent, là, j'en ai aucune idée. Je parle pas assez bien allemand pour... mais juste le fait, en fait, qu'on mêle les langues, ça crée un background très étrange au personnage.
Oui, tout à
puis
fait.
Le personnage, il a vécu dans la ville, donc il peut parler français. Il a peut-être une connexion avec les anglophones du Canada. Mais en même temps, il est nazi, donc il avait son parler en allemand. Donc il m'a proposé ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'ai laissé aller, puis on l'a essayé comme ça. Puis ça donne une drôle de touche au personnage.
Oui, ça marche bien, en tout cas.
Ouais,
ça marchait vraiment.
Puis c'était vraiment c'était très particulier pour lui à jouer, là, parce qu'il fallait qu'il change de langue. Donc c'est lui qui m'a fait la proposition du texte, mais au début c'était écrit en français, puis on l'avait traduit en allemand. Puis lui, il a regardé le texte, puis il m'a proposé, donc celle-là je la ferai en français, celle-là en anglais, mais il switch d'une langue à l'autre pendant qu'il fait une phrase.
Oui, mais ça, finalement, ça rend son propos compréhensible, c'est ça
ouais,
qui est
exactement.
Intéressant.
Voilà, ouais. C'est que les mots-clés, il les dit en français. Donc, quand il y a les sous-titres, c'est « foreign language », donc un langage étranger. Mais les mots francophones, les mots importants sont en français, donc le public francophone peut comprendre quand même le sens de la chose. Mm-hmm. Puis, c'est un peu ça aussi, en fait, qui me faisait rire, parce que, bon, le film est très québécois, comme je disais, puis ça a été drôle parce que les gens dans la salle ne comprenaient pas la moitié des références, parce que c'est très, très québécois, il n'y avait pas les sous-titres français. Mais en même temps, l'histoire est tellement... C'est quelque chose de très léger, donc c'est facile de comprendre sans comprendre tout le dialogue. C'est plus des petites blagues, des tournures de langue qui vont se perdre, mais sinon, je pense que c'est assez compréhensible. C'est un no-brainer, comme on dit. Là.
Je vous conseille quand même, si vous regardez la web-série, de la regarder sous-titrée en anglais, elle existe.
Sur KWeb, on a les sous-titres en anglais, exactement. Mmh. Ouais.
Et les deux versions existent sur KWeb.
Oui, exactement. Ouais.
Très bien, je sais pas si vous avez d'autres questions.
Moi, un peu en dehors du film, qu'est-ce que tu as pensé de ta venue ici au BIF?
Je suis tombé en amour dans tous les sens. Je pense en arrivant ici, là, c'est comme c'est fou. Je me suis fait tellement d'amis. L'ambiance du festival est complètement. C'est vraiment incroyable. Là, juste être dans la salle avec les réactions des gens, la façon que les gens. Ma première projection ici, c'était mon film. Après ça, j'ai vu 5 autres films, donc j'ai pu plus commencer à connaître les calls, comme on peut dire. Donc voir la lune puis se mettre à crier comme des malades. Là. Mais ça, c'est unique, là. J'ai jamais vu ça. Puis, ce qui est très. Moi, je suis un fan de Fantasia. À Montréal, on a un peu l'équivalent festival de genre. 120 longs métrages en 3 semaines. C'est un festival que j'adore. Je vais voir 30 films par année, là. Je suis vraiment, vraiment. Je suis complètement cinéphile. Puis, mais on n'a pas. Ce qui nous manque à Fantasia, c'est un quartier général comme on a ici, où les gens se rassemblent pour prendre un verre entre les films. Je connais les organisateurs de Fantasia, puis je vous jure que je vais leur en parler parce que c'est là que je me suis fait des amis. Puis. Pour vrai, je pense que je pars d'ici avec 40 demandes d'amis sur Facebook. Donc voilà, c'est magique comme ambiance. Là. Ouais.
Ah ben chouette. Chouette. Et Luc
Moi, j'ai rien de particulier, mais c'est juste que je trouvais ça... C'est la première fois que tu venais en Belgique ou tu étais déjà venu?
J'étais venu en fait faire le cabaret Kino il y a 3 ans. Donc le cabaret Kino étant les défis 72 heures à Kino, on écrit, on tourne et on monte en 72 heures un film. C'est complètement malade. Là. C'est comme un jam de musique. Les gens qui vont juste à improviser ensemble, mais en cinéma. Au bout du compte, tu as des films qui se font. À Montréal, on a un cabaret, c'est 60 films qui se font en 10 jours. C'est malade comme expérience. Donc j'étais venu faire le cabaret Kino, mais c'est sûr qu'être au BIF, c'est une autre ambiance, c'est une autre clique. J'ai quand même croisé plein de gens qui étaient au cabaret Kino avec qui j'avais travaillé, qui sont ici, puis c'est des fans de la place. Donc voilà, c'était ma deuxième fois, mais bon, c'est certain que c'est pas la dernière fois. Là.
Super, en tout cas. Je te souhaite de profiter. Tu es encore ici pour longtemps?
Jusqu'à vendredi matin, donc il me reste une journée et demie pour en profiter. Mais je vous jure que demain soir, jeudi soir, je ne dors pas. Et je fais la fête toute la nuit, je vais dormir dans l'avion. Mais je veux pas perdre une minute là, à dormir. Là, fuck off!
Ouais, super, en tout cas. En tout cas, merci pour ton film. Merci pour le moment qu'on a passé. On a bien apprécié.
Ben, merci à vous. C'est vraiment gentil l'invitation. Puis merci d'être venu voir la projection. Je pense que c'est ça qui est important, d'avoir un public qui regarde ces trucs. C'est pour ça que je dis downloader, téléchargez-la en torrent. Il n'y a pas de problème parce que je veux juste que le film soit vu. Donc, quand les gens viennent à la projection, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci beaucoup.
Voilà.
On va peut-être juste rappeler où on peut voir la web-série.
Alors, ouais, la web-série, on peut la voir. Mais à la limite, Rémi, si tu peux...
Donc, si vous êtes capable de pirater votre ordinateur pour avoir la connexion Canada, donc c'est tou.tv, tou.tv. C'est le site de Radio-Canada, donc avec beaucoup de contenu web. Puis sinon, la série est disponible avec sous-titres anglais, donc suggéré ici à la table, sur kebweb.tv. Kebweb s'écrit K-E-B-W-E-B. .tv. Et voilà.
C'est quoi comme site en fait? Ça,
c'est un site indépendant de diffusion. Donc nous autres, c'est notre deuxième partenaire. Ils ont de la diffusion. .tv, c'est un gros site. Donc ils l'ont eu pour les 6 premiers mois. Puis Kebweb l'ont récupéré après. Puis on leur a donné le bonus d'avoir des titres anglais. Donc il y avait cette deuxième visibilité-là. Mais c'est un portail indépendant de diffusion. Voilà.
De toute façon, vous tapez Les Jaunes web série sur Google et vous trouvez votre bonheur.
Exactement. Voilà.
Voilà.
Allez, merci à vous.
Je ne sais pas si tu veux rester pour... Alors, Nicolas, tu vas nous parler de
Kung Fury. Kung Fury. En fait, ça tombe bien qu'on soit au bif pour parler de ça. En fait, je ne sais pas pour qui a vu ce trailer-là. C'est un trailer qui date d'il y a 2 ans.
Je crois qu'on l'avait posté sur le Facebook de l'œil carnivore.
Ah bah voilà. C'est un film de kung-fu dans la pure... Le pur film des années 80, film d'action ringard avec le flic qui roule en Lamborghini et qui traque tous les bad guys qui se baladent avec leur skateboard et tout ça. Et son but ultime, c'est de tuer le kung-fureur, donc Adolf Hitler. Et donc il retourne dans le passé grâce à un de ses potes geeks qui le renvoie dans le passé via un Commodore 64 ou un truc comme ça. Et par chance, en fait, j'ai pas vu le film et tout le projet. Je suis en contact en fait avec une boîte qui leur a proposé de faire une séquence en dessin animé. Et donc par chance, en fait, j'ai pu travailler sur une séquence dessin animé style années 80, style G.I. Joe, Musclore. Je vous dis pas ce que c'est parce que je vous invite à aller voir le projet et vous découvrirez ça. Le film sort dans 2 mois en Suède. A priori, il passera d'abord en festival. Il faudrait que je contacte le BIF pour voir si ça les intéresse pas, mais à mon avis, il aurait bien sa place ici. Et
sûr, c'est pour le BIF ce film-là. C'est comme tout tourné en écran vert aussi. Là, c'est,
ouais.
C'est très. C'est de la culture geek. Là. C'est du jeu vidéo en fait.
Oui, ça me fait penser à l'espèce de spin-off de Far Cry en fait, qui est exactement dans le même.
Blood Dragon, ça envoie du lourd, rien que le trailer de leur campagne. C'était
alors,
déjà,
ce qui est énorme, c'est qu'il y a tout. Il y a du nazi, il y a du dinosaure, il y a Thor dans le film, il y a des Valkyries. Y a...
Thor, il dépote. Hein.
Thor, il défonce.
Ouais, franchement.
Et visiblement, c'est que du Green Key. Et par contre, c'est assez bien géré parce qu'ils ont pourri l'image pour avoir un rendu cassé de VHS. Et en même temps, ça marche très bien parce qu'on se rend pas trop compte que c'est de la 3D derrière.
C'est même pire que ça, ils ont rajouté du bleu en reflet sur les personnages alors qu'ils sont Green Key, donc c'est du rajout quoi, pour faire vieilles incrustations quoi.
Donc voilà, je vous invite à aller voir en tout cas le trailer qui traîne sur YouTube. Hein, donc
on le mettra sur l'article de l'émission,
évidemment.
Voilà. Et sinon, t'es allé voir quelques films un petit peu au BIF
Alors, il y a des années où j'en fais plus. Cette fois-ci, j'en ai vu 5 ou 6. Les Jaunes, c'était le plus cool que j'ai vu.
Oh, c'est gentil, merci.
Mais c'est réel. Des fois, on a la chance, on sait jamais trop ce qu'on va voir. Cette fois-ci, j'ai pas eu beaucoup de chance parce que j'ai vu beaucoup de trucs très mous, très lents.
Moi aussi.
Ah, t'as été voir quoi?
J'ai vu 2 films, en fait, que j'ai beaucoup aimé. Là. Ça, je peux vous les suggérer. Il y a False, que j'ai vu, qui est un... C'est un huis clos en fait, c'est un mec qui essaie il kidnappe une fille, ses parents en fait, les parents de la fille vont le voir puis ils disent notre fille est rentrée dans une secte, on sait que vous êtes le spécialiste, on aimerait que vous la sortiez de la secte, donc il la kidnappe, il la met dans une chambre d'hôtel puis il essaie de la convaincre de sortir de cette secte. Puis c'est Marie-Elisabeth Winstead qui a produit, qui joue dans le film, qui joue la jeune fille. C'était vraiment bien parce qu'il y a beaucoup d'humour au deuxième degré. C'est vraiment très très drôle, mais en même temps le sujet des vues par bout, ça devient un peu dramatique.
Ça me rappelle un film australien, il y a quelque chose dans ce style-là. Je remets pas le nom dessus, mais sur effectivement quelqu'un qui fait partie d'une secte, une secte entre guillemets, mais qui est parti en Inde et qui est récupéré par sa famille, et justement un gars qui est là, qui séquestre la nana pour la retourner contre la secte indienne en fait.
C'est avec Kate Winslet.
Oui, je crois.
Ouais.
Ah, donc je suis pas fou, les autres vont regarder avec des gros yeux.
Puis sinon, j'ai vu, en fait, ça, je l'ai vu d'avance, donc si vous avez la chance, il n'est pas encore projeté. Je suis allé dans les projections presse, il fallait pas que je le manque. J'ai vu Lost Souls, le documentaire sur l'île du docteur Moreau qui a été fait dans les années 90. C'était un film, ça a été un peu une catastrophe, le tournage. Le budget a gonflé jusqu'à 36 millions. Il y avait Marlon Brando sur le plateau, Val Kilmer, puis c'était dans la fin de carrière de Marlon Brando. Enfin, il est devenu complètement fou. Il imposait des trucs sur le tournage, comme dans cette scène-là, j'aimerais savoir un saut de glace sur la tête. Puis il était obligé de dire oui parce que c'est Marlon Brando. Donc il y a une scène dans le film où il y a un saut de glace sur la tête. Mais c'est un projet qui était hyper visionnaire. Je me souviens pas du nom du réalisateur. C'est le réalisateur qui a fait Hardware, puis il a fait Dust Devil, qui est présentement au festival en fait. Il avait fait ces films-là, des films très indépendants. Puis c'était son premier film studio. Mais il avait une vision très particulière. En fait, il avait beaucoup de dessins pour l'île du Dr Moreau. Il avait une belle vision. Mais les studios l'ont cassé, puis ils ont posé des trucs, puis c'est devenu juste un film très fade. Puis même au milieu de la production,
oui, c'est vrai. Le souvenir que j'en ai, effectivement, ça tourne pas. Le générique, par contre, était très chouette.
Ouais, je m'en souviens pas, en fait. Là. Mais ils l'ont jeté dehors au milieu de la production, ils ont remplacé par un autre réalisateur. Ouais. Donc ça a été une catastrophe, ce tournage-là. Puis c'est un peu dans la lignée de Lost in La Mancha, Terry Gilliam, le Dune de Jodorowsky, parce que ben, Dune, on voit beaucoup sa vision. C'est un mélange des deux, parce que Dune, on voit sa vision. Puis là, c'est de la Mancha, on voit beaucoup en fait ce qui s'est passé sur le plateau, puis là, c'est un peu des deux en fait. Voilà, ça c'est Lost Souls, ça c'est une recommandation du festival. Là.
Ah ben chouette. Et donc, toi Nico, t'as vu quoi encore?
Ben écoutez, je ne me souviens pas des titres, mais franchement...
Attends, on peut chercher le programme.
Oui, mais en même temps, ça vaut pas vraiment la peine. Non, ça mérite d'être cité pour pas aller les voir en tout cas. Mais j'ai pas eu de bol en fait, j'ai eu des séances très très molles et parfois le public était même pas dedans pour relever un peu le film et donc du coup, non en fait j'ai fait, mais il me reste encore quelques jours là, j'ai essayé de rattraper mais j'ai vraiment pas eu de bol. Attends, j'ai vu un film argentin, celui-ci, je sais pas lire de vrai parce que j'ai vu de merde.
Alors c'est El Ardor.
Voilà, ça c'est un espèce de western en Amazonie. Avec, il n'y a pas de scénario, c'est très très lent parce qu'il la joue un peu western spaghetti. Mais en fait il se passe rien et les personnages sont complètement cons. Sauf que le film se veut sérieux, donc c'est juste un peu lourdingue.
Je peux lire le pitch à la limite. Accrochez-vous. Alors, un western amazonien où un homme seul affronte les mercenaires du néolibéralisme.
Voilà, mais
typiquement là comme ça.
Et il y a limite plus dans le pitch que dans le film.
Ouais, ça vend pas super bien le film.
Non, j'en ai vu d'autres du même acabit, mais non, j'ai vraiment pas grand chose à relever cette fois-ci.
Et donc toi, tu fais partie de Rémi, ton film fait partie de la compétition ou comment ça se passe?
Ouais, c'est la compétition 7e ciel, je crois, un truc comme ça. Je pense que c'est des films. Ils m'ont dit que c'est des films un peu plus classables, donc ils sont pas nécessairement horreur, ils sont pas nécessairement. Tu sais, les gens sont un peu, c'est un entre deux, donc je comprends un peu la sélection. On verra ce que ça donnera, donc. Je sais pas exactement contre qui je suis en compétition, j'ai pas trop regardé. Déjà que j'étais sélectionné ici, c'était déjà ça là, pour moi, j'avais déjà gagné avec ça là.
Ok, chouette. Bon ben voilà, hein. Voilà, je crois qu'on peut clore l'émission. Autour de nous, vous entendez le bruit des gens qui viennent de quitter la séance.
Ils viennent pour nous, hein.
Soirée,
ils viennent pour nous. Il est pour Rémi.
Bah ouais, on a entendu les acclamations. Rémi, Rémi.
Ils ont entendu, ils sont venus voir. Quoi.
Il y a des soutiens-gorges qui volent et tout.
Avec plaisir.
Donc voilà, et en tout cas, chouette, parce qu'encore un hors-série, entre guillemets, de Carnivore. On essaye de vous fournir de plus en plus souvent parce que
on est complètement en retard sur la Méditerranée.
C'est pas ça qui est important, c'est la qualité du contenu.
La qualité du contenu, voilà. Voilà, on vous retrouve. Moi, je réenregistre une émission normalement samedi prochain, donc je sais plus, on sera le 18-19. On sera plus tard, voilà. Donc vous aurez deux émissions pour le prélude, que demander de mieux, voilà. Et merci beaucoup à Rémi, vraiment.
Merci à vous encore.
Si tu veux dire bonjour à ta tata ou un truc dans ce genre-là, tu peux, si tu veux.
J'ai déjà chanté une chanson grivoise sur scène, puis j'en ai parlé à mon père, il était très flatté.
Ouais, voilà, effectivement. Et ben à bientôt de toute façon.
Évidemment, faire un petit tour sur le site, on vous filera les détails, voilà, les liens, mais tout ce qui va bien avec.
Faites des commentaires et tout. Donc on est en partenariat avec badgeek.fr, avec Indie Web Recording. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes. N'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires.
Mettez tout ce que vous pouvez.
Voilà, exactement. Et sur PodCloud.
Hein. Ouais, c'est PodCloud. Ça. PodCloud. Merci Damien pour ce bel accent.
Et puis, à bientôt. Voilà.
Ciao.
Ciao.